Alors, madame, vous avez, vous, un appel très précis à lancer.
Oui, moi, je voudrais m'adresser à toute personne pouvant donner un renseignement, fournir une piste, un indice. Est-ce qu'à l'époque, certains ont peut-être eu peur de parler? Est-ce qu'ils n'ont pas osé dire ou ils n'ont pas su dire? Est-ce que les enquêteurs aussi leur faisaient un peu peur? Je leur demande, je leur supplie qu'ils appellent, parce que par cette supplication, c'est Evelyne qui s'adresse à eux. Et j'attends, on attend que ça ce soir.
8 décembre 1987, à Avignon, dans le Vaucluse. Il est 17h30. Une jeune lycéenne prend le bus pour rentrer chez ses parents. Elle s'appelle Evelyne Boucher. Elle a 16 ans. Elle fait le voyage avec une camarade de lycée, Christelle. Quelques minutes plus tard, les deux jeunes filles descendent au même arrêt, à Villeneuve-les-Avignon.
Elles descendent ensemble du bus. Elles vont parcourir plusieurs centaines de mètres, se séparer, et Evelyne va devoir encore cheminer dans la nuit durant plusieurs centaines de mètres.
Au même moment, la maman d'Evelyne, Gisèle, est en train de préparer le repas. Elle attend sa fille, qui ne devrait plus tarder. Seulement les minutes passent et Evelyne n'arrive pas.
Evelyne devait rentrer aux environs de 19h30 à la maison. Et puis ce jour-là, 8h moins le quart, 8h, elle n'était pas là. Et elle n'était jamais en retard. Donc elle arrivait toujours à l'heure. Si elle était en retard, elle téléphonait ou elle faisait prévenir. Donc là, j'ai commencé à dire, c'est pas normal qu'elle soit pas rentrée.
Gisèle et son compagnon Jean-Pierre sont inquiets. La mère d'Evelyne commence par appeler son ex-mari, le papa de la jeune fille. Peut-être la lycéenne s'est-elle rendue chez lui sans prévenir. Seulement, elle n'est pas chez son père. Gisèle décide alors de partir à sa recherche.
Elle commence à circuler avec son véhicule pour essayer d'apercevoir sa fille, de voir si, pour une fois, elle n'aurait pas oublié, si je puis dire, de rentrer à l'heure.
Regarder, faire le tour de la rue de la République, dans les bars, dans la rue, donc faire le tour, et puis jusqu'à un moment donné où on est rentré, et on a dit, bon, là, j'ai dit, il faut aller au commissariat pour faire part de sa disparition, parce que c'était pas normal qu'on n'ait pas de nouvelles et qu'elle soit pas rentrée.
Vers 23h30, Gisèle se rend donc au commissariat pour faire part de ce retard plus qu'anormal. Mais les policiers ne sont pas vraiment inquiets.
Sur le moment, ils nous disent, vous savez, elle a 16 ans, c'est certainement une fugue. Et moi, j'ai dit, non, c'est pas une fugue. Ma fille n'aurait pas fugué, ça j'en suis sûr.
C'est pas une jeune fille qui est coutumière des fugues, des soirées tardives. C'est pas dans ses habitudes, non. Elle a au contraire une vie extrêmement réglée, précise.
Les policiers finissent par enregistrer la plainte. Gisèle n'est pas pour autant rassurée. Et une longue nuit d'angoisse passe alors. Le lendemain matin, vers 7h45, au lieu dit du plan de la dame, deux chasseurs parcourent les sentiers campagnards. Quant au beau milieu d'une clairière, ils découvrent soudain un corps humain. C'est une jeune fille, couchée sur le sol, face contre terre. Son corps est à moitié dénudé. C'est la police judiciaire d'Avignon qui prend en charge l'affaire. Sur les lieux, les enquêteurs font les premiers relevés d'indices.
On constate l'état du corps. C'est-à-dire, alors, il était couché face contre terre. Elle a simplement une mini-jupe et une ballerine. On voit à l'œil nu qu'elle a été frappée. Elle a une marque en dessous de la pommette. Et le médecin légiste voit qu'elle a été achevée par une balle qui a été tirée sur le lieu parce qu'il y a un épanchement sanguin.
On est manifestement dans le cadre d'une affaire d'un crime sexuel, c'est-à-dire d'une jeune fille qui vient d'être violée et qui a été ensuite assassinée.
Un crime sexuel d'une rare violence sur la personne d'une très jeune femme. L'affaire est grave. Les policiers inspectent alors les alentours à la recherche du moindre indice pour identifier la victime.
Tout de suite, il y a un cartable d'écolier à côté du corps. Tout de suite, on se rend compte que c'est la jeune fille de Villeneuve qui a disparu.
Il s'agit donc bien d'Evelyne Boucher, l'adolescente qui a disparu la veille. Tous les vêtements de la victime sont inspectés, mais à part un blouson taché de sang, les policiers ne trouvent aucun autre indice. Les hommes de la police judiciaire décident aussitôt de prévenir Gisèle, la mère d'Evelyne.
Là, je reçois un coup de téléphone qui me dit « On a des nouvelles de votre fille, restez chez vous, on va venir. »
Quelques heures plus tard, les policiers se rendent chez Gisèle. Ils ont déjà raconté leur découverte à son compagnon Jean-Pierre, et c'est lui qui annonce la terrible nouvelle.
Bah écoutez, sur le moment, quand Jean-Pierre m'a appris donc son décès, j'ai eu un malaise. J'avais pas du tout imaginé ça. Je comprenais pas, quoi. Je comprenais pas ce qui avait pu lui... qui avait pu faire ça. Je veux dire, pourquoi l'a tué? Et bon, ça, c'est vrai que je me suis toujours posé cette question-là en me disant, bon, mais c'est que s'il a fait ça, c'est qu'elle l'avait vu quelque part ou elle le connaissait.
Dans les jours qui suivent, la nouvelle de la mort d'Evelyne fait le tour de la région. La population est en émoi.
On est dans le summum de l'horreur, hein. Une jeune fille à la fleur de l'âge.
Les parents sont très inquiets. On ne sait pas qui c'est qui a commis le crime. On ne sait pas s'il ne va pas recommencer. Donc tous les parents ont peur.
Face au choc, les enquêteurs se doivent de faire vite. Une information judiciaire est ouverte. Et l'enquête est confiée au juge d'instruction Christian Lernoux pour qui elle devient une priorité. Car lui aussi craint que le meurtrier ne soit quelqu'un de la région.
Quelque chose de très fort se produit avec ce sentiment que quelqu'un de proche, peut-être de familier, ou alors un rôdeur inconnu qu'on aura le plus grand mal à découvrir, mais qui peut être encore à proximité et dans la nature, et qu'il faut le trouver rapidement.
Deux jours après la découverte du corps, le médecin légiste rend ses conclusions. Il apparaît que la victime a été tuée à l'aide d'une arme de calibre 22 long rifle.
C'était un crime froidement commis, prémédité, on ne pouvait pas le dire, mais en tout cas exécuté avec une grande sauvagerie et une grande détermination.
L'autopsie confirme également que la jeune Evelyne a été violée.
Des traces de sperme ont pu être trouvées sur le corps de la jeune victime et qui ont déterminé qu'elle avait également été violée, puisqu'ayant eu une relation sexuelle ou des relations sexuelles manifestement sous la contrainte.
Seulement, à cette époque, il n'est pas encore techniquement possible d'identifier un ADN à partir d'un échantillon de sperme. On ne pourra donc déterminer que le groupe sanguin du tueur. À ce stade de l'enquête, les policiers ont donc très peu de pistes à exploiter. Et c'est en s'intéressant à la vie de la victime qu'ils vont essayer de déterminer l'identité de son meurtrier. « Qui était Evelyne Boucher? Qui fréquentait-elle et qu'a-t-elle fait le 8 décembre 1987, jour de sa disparition? Au premier jour de l'enquête, les policiers se plongent dans la vie de la jeune fille. Une vie de lycéenne apparemment sans histoire.
C'est une jeune fille très sympathique, d'un abord facile, qui était assez populaire, tant vis-à-vis des autres élèves que vis-à-vis des professeurs.
Il n'y a rien dans son histoire qui laisse supposer qu'elle ait des relations particulières qui pourraient conduire quelqu'un à... Elle n'est pas dans la drogue, elle n'est pas dans d'autres milieux. Non, c'est une jeune fille comme toutes les autres.
En revanche, la vie sentimentale de la jeune fille était loin d'être banale.
On sait tout de suite par ses camarades, parce qu'elle n'était pas secrète. Donc, elle a un petit ami qui a 17 ans, et elle est amoureuse d'un garçon de café qui doit avoir 21 ans.
Deux histoires d'amour en même temps. Evelyne a un amoureux officiel, Salvador, un jeune lycéen. Mais elle est également amoureuse en secret de Donato, le serveur d'un bar où elle aime se rendre après les cours avec ses copines. Pour les policiers, la piste est intéressante.
Les policiers se disent que c'est peut-être une fille un peu plus légère que ce qu'on peut la présenter au premier abord. Est-ce qu'elle aurait plusieurs copains en même temps? Est-ce qu'elle passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'elle joue un petit peu avec les jeunes gens?
Comme il y avait deux garçons sur le coup, on a pensé évidemment que ça aurait pu être une histoire de jalousie.
Les enquêteurs s'interrogent. La mort d'Evelyne pourrait-elle être liée à une querelle amoureuse avec l'un de ces deux garçons, Salvador ou Donato? Pour le savoir, les policiers vont essayer de reconstituer l'emploi du temps de la jeune fille le jour de sa disparition, le 8 décembre 1987, et ils vont aller de surprise en surprise. Ce 8 décembre, comme tous les matins, Evelyne part de chez elle vers 7h30. Mais grâce au témoignage de ses camarades de classe, les policiers établissent que, contrairement à ce que pensaient ses parents, Evelyne ne s'est pas rendue au lycée ce jour-là.
Il se trouve qu'Evelyne, ce jour-là, elle a séché. Elle n'est pas allée en cours comme elle aurait dû aller. C'était une bonne élève, c'était une élève assidue, mais qui séchait aussi les cours.
Elle prend cette initiative de manquer quelques heures de cours parce qu'elle veut à tout prix essayer de voir et de passer un instant avec le jeune homme dont elle est amoureuse, Donato.
Evelyne passe donc toute la matinée au bar Le Carnot à observer le jeune serveur Donato. Elle ne quitte le bar que pour aller rapidement déjeuner à la cantine de son lycée. Ensuite, elle retourne au bar car elle a l'intention de déclarer sa flamme au serveur. Ce qu'elle fait dans l'après-midi.
Le jeune homme, Donato, va accepter pendant sa pause d'aller boire un verre avec elle dans un autre établissement. Ils vont passer un moment, mais lui, bon, ça l'amuse, mais il n'a pas envie d'avoir une relation avec elle.
C'est un amour platonique. Lui ne répond pas à cette avance parce qu'il la considère comme étant beaucoup plus jeune que lui.
Elle l'accepte d'ailleurs bien volontiers. Parce que tout de suite après, elle va voir son petit copain. Donc elle n'en fait pas une maladie.
Après ce rendez-vous, Evelyne retrouve son petit ami officiel, Salvador. Et ils passent une heure ensemble. Enfin, vers 17h30, Evelyne quitte son petit ami pour prendre son bus. Donato et Salvador semblent donc n'avoir eu aucun contact avec Evelyne après la fin de l'après-midi.
On les entend, je dirais pas on les cuisine, mais on les entend avec sérieux. Et ces garçons ont été... Leur emploi du temps a été minuté, donc le soir, ils étaient chez eux.
Tous les témoignages se recoupent pour confirmer cet emploi du temps. Il n'y a pas la place au moindre doute, à la moindre interrogation.
Salvador et Donato sont donc lavés de tout soupçon. Mais l'emploi du temps d'Evelyne réserve d'autres éléments plus surprenants encore. Vers 18h30, Evelyne et son amie Christelle sont descendues du bus avant de se séparer sur le trottoir. Or, les policiers découvrent que quelqu'un assistait à la scène. Il s'agit de Géraldine, une autre camarade d'Evelyne. Elle se trouve à la fenêtre de sa cuisine. Elle voit Evelyne s'éloigner, seule. Mais ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard, elle voit Evelyne passer en sens inverse à bord d'une voiture.
Une dizaine ou deux minutes ou un quart d'heure plus tard, donc je regarde à nouveau par la fenêtre et je vois Evelyne assise à l'arrière d'un véhicule, donc c'est une petite voiture du style R5. Et donc elle est assise à l'arrière et la voiture passe en roulant très lentement devant chez moi. Donc comme je suis très curieuse, parce que je suis étonnée de voir qu'elle sort en début de semaine, un soir, puisqu'à l'époque on était mineurs, donc normalement on restait chez nous, on faisait nos devoirs et on rentrait directement.
Géraldine est même capable de donner une description succincte du conducteur.
C'est un homme de race blanche, assez grand, qui a l'air sportif, qui a les cheveux relevés à l'avant, légèrement ondulés sur le dessus et courts derrière. Ça a l'air d'être un bel homme.
Pour les policiers, c'est évident. Evelyne a donc été enlevée et le conducteur de la voiture est certainement son meurtrier.
On a donc un créneau très précis du moment de l'agression, de la disparition, de la manière dont Evelyne Boucher est emmenée, plus ou moins de gré, plus ou moins de force, par un inconnu dans une voiture, au moment où elle rentrait dans son lotissement.
L'ennui, c'est que la description du véhicule faite par Géraldine n'est pas assez précise.
À l'époque, il y a beaucoup de Renault 5, il y en a énormément. C'est la voiture, classique à l'époque. Et donc, voilà, ils vont chercher.
C'est une tâche absolument énorme. Hein. C'est vraiment chercher une aiguille dans une belle de foin.
Mais la maman d'Evelyne, Gisèle, estime qu'il s'agit là d'une piste trop sérieuse pour baisser les bras. Elle décide alors de mener son enquête de son côté.
Je relevais toutes les plaques d'immatriculation étrangères au lotissement. Je donnais les plaques à vérifier à l'APJ. Parce que je disais, tiens, peut-être que cette voiture a pu venir ce jour-là.
Elle pousse et elle porte un petit peu tout le monde. Les policiers, le magistrat instructeur et son avocat.
Avec son compagnon, Gisèle placarde des affiches partout dans la ville afin de récolter des informations sur la mystérieuse R5 ou n'importe quoi d'autre, promettant une récompense de 200 000 francs, 30 000 euros. Mais aucun témoignage nouveau ne viendra récompenser leurs efforts. Et c'est la police judiciaire qui va enfin mettre la main sur un suspect potentiel. Les policiers commencent à se demander si l'assassin d'Evelyne n'est pas un voisin de sa famille, en particulier parce que ce quartier est peu fréquenté et difficile d'accès.
Pour venir chez nous, c'était relativement difficile. Donc c'était quelqu'un qui connaissait le lotissement et qui avait, si ce n'était pas quelqu'un du lotissement, qui avait peut-être des attaches dans le lotissement.
Pour les enquêteurs, c'est un local. C'est quand même quelqu'un du coin. Et l'enquête va s'orienter dans un premier temps sur une enquête de voisinage un petit peu serrée sur l'environnement, sur les gens qui habitent dans ce secteur et puis les gens qu'ils fréquentent.
Des jours durant, les enquêteurs investissent le lotissement.
Ils ont fait du porte-à-porte, ils ont interrogé tout le monde. Ils ont bien entendu, en interrogeant certains, vérifié leur déclaration.
Et parmi les habitants du lotissement, il y en a un qui va attirer l'attention des enquêteurs. Il s'agit d'un chauffeur routier d'une quarantaine d'années. Il vit dans le quartier, pas très loin de chez Evelyne. Et surtout, l'homme a un lourd passé criminel. Il a passé 5 ans en prison pour agression sexuelle. Les policiers décident de le mettre aussitôt en garde à vue. Et l'homme ne semble pas surpris d'être soupçonné.
Il n'y a pas besoin de lui dire « Est-ce que tu as tué la jeune fille ?» C'est pourquoi il est là. Il dit « J'en étais sûr, je vous attendais. Je savais que, vu mon pédigré, j'allais être soupçonné. » Ma foi, on lui dit, on verra.
Les questions défilent. Interrogé sur son emploi du temps, le routier jure que le soir de l'agression de la jeune Evelyne, il se trouvait au volant de son camion dans le nord de la France. Pour vérifier ses déclarations, il suffit au policier d'étudier son disque de conduite, celui que tous les routiers possèdent dans leur camion. Or, le disque est formel. Le soir du meurtre, le routier était bien présent dans la région d'Avignon. Il a donc menti.
Son disque, il n'est pas conforme à sa déclaration. Du coup, il est un petit peu embêté pour justifier d'où il était. Et les policiers pensent tenir là quelque chose de sérieux.
Pour conforter leurs soupçons, les policiers vont faire analyser le groupe sanguin du routier. Si celui-ci correspond au groupe sanguin déterminé grâce au sperme retrouvé sur le corps d'Evelyne, ils pourront alors considérer que le chauffeur routier devient un suspect plausible. L'ennui, c'est que l'analyse va livrer un résultat bien différent.
Le groupe sanguin ne correspond pas. C'est pas lui. C'est pas lui. Bon, ben c'est pas lui, c'est pas lui.
C'est quand même un coup, quoi, parce que l'enquête marque le pas. Et puis, on a une personne qui était vraiment un suspect, qu'on pourrait dire presque parfait, qui est exclu.
Le chauffeur routier est innocenté. Pour les policiers, il faut revenir à la case départ. Près d'un mois après la mort d'Evelyne, c'est l'impasse. Une impasse qui va durer plusieurs années. Février 1993, 5 ans après les faits, Témoin numéro 1, une émission de télévision s'intéresse au meurtre non élucidé d'Evelyne Boucher. C'est sa mère Gisèle qui a décidé de participer à cette émission pour relancer les investigations.
Alors, madame, vous avez, vous, un appel très précis à lancer.
Oui, moi, je voudrais m'adresser à toute personne pouvant donner un renseignement, fournir une piste, un indice, mais surtout, plus particulièrement, à tous les amis d'Evelyne de l'époque. Parce qu'elle avait 16 ans, elle en aurait 22 maintenant. Est-ce qu'à l'époque, certains ont peut-être eu peur de parler? Est-ce qu'ils n'ont pas osé dire ou ils n'ont pas su dire? Est-ce que les enquêteurs aussi leur faisaient un peu peur? Je leur demande, je leur supplie qu'ils appellent, parce que par cette supplication, c'est Evelyne qui s'adresse à eux. Et j'attends, on attend que ça ce soir.
C'est son espoir, c'est... Elle a toujours dit... quelqu'un sait. Elle a deux pistes, c'est sensibiliser l'entourage éventuel du meurtrier et puis qu'un témoin qui avait vu quelque chose à l'époque et qui ne l'ait pas dit pour des tas de raisons vienne s'exprimer, vienne dire « bah, j'ai pas dit » ou « la police n'est pas venue me voir » ou « j'ai pas... » Voilà, mais ça me rappelle quelque chose.
Malheureusement, personne ne répondra à l'appel de Gisèle, ni le soir de la diffusion, ni les jours suivants.
Les policiers commencent à manquer de souffle, à manquer de pistes, pistes à exploiter. Donc le dossier n'est pas enterré, le dossier n'est pas fermé, mais il est au ralenti. Il est au ralenti.
Une Renault 5 introuvable, 5 ans d'enquête, des pistes qui s'évanouissent, le moral des enquêteurs est pour le moins émoussé. Seule la mère d'Evelyne y croit encore.
Il y en a qui me disaient « Arrête maintenant, tu vois pas que tu te... ça sert à rien, c'est fini, les années sont passées, Non, je disais non, il faut toujours avoir de l'espoir, on sait jamais, un jour, bon... »
Et quelques mois plus tard, ce sont les progrès de la science qui vont donner un nouvel espoir à la mère d'Evelyne. Dans le courant de l'année 1993, la police scientifique connaît une petite révolution. Les laboratoires de police sont désormais capables de prélever de l'ADN sur des matières organiques, et notamment sur du sperme. On s'empresse alors de faire analyser le sperme retrouvé sur le corps d'Evelyne, et miracle, malgré les années écoulées, l'ADN du tueur est clairement identifié.
On a une trace certaine, qui est bien prélevée, qui est bien conservée, et on va y arriver un jour.
Ce n'est absolument plus un groupe sanguin, parce que là, c'est une empreinte génétique, c'est une signature, c'est une carte d'identité qui a été posée sur la victime. On sait que c'est une personne et pas une autre.
Les enquêteurs disposent maintenant de la carte d'identité génétique du tueur. Il ne reste plus qu'à la comparer à d'éventuels suspects.
On change de méthode. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la recherche de renseignements, sur la recherche de témoins, sur la recherche d'informations. Et ils vont procéder à des vérifications ADN sur un très très grand nombre de personnes.
Les petits amis de l'époque, le père, le beau-père.
Moi-même, j'y suis allé deux fois. Je suis passé deux fois en ADN, donc vous voyez. Ça a reboosté, parce qu'on on pensait qu'avec cet outil-là, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça aboutirait.
Comme les premières comparaisons ne donnent rien, petit à petit, les tests ADN s'étendent de la famille aux proches, puis aux voisins et même aux professeurs du lycée d'Evelines.
Le cercle va s'élargir, donc c'est comme ça qu'il y a 10, 20, 30, 40, 80 personnes qui vont passer au crible de l'expertise génétique. Tous vont être négatifs.
En 1996, les policiers vont étendre leurs recherches aux criminels sexuels sur le plan national. C'est ainsi qu'ils vont faire une découverte incroyable. Roberto Succo aurait séjourné dans la région d'Avignon lors de son périple meurtrier en 1987. Celui qu'on surnommait le tueur fou a tué 7 personnes avant d'être arrêté. Les enquêteurs y voient une nouvelle piste intéressante. Succo aurait-il croisé la route de la jeune Evelyne ?
On sait qu'il a, la veille ou l'avant-veille des faits, volé une voiture à Aix-en-Provence. On sait que le jour ou le lendemain des faits, avec cette voiture, il est vu dans le Vaucluse, près d'Avignon. Et on sait surtout qu'un mois avant, en octobre 1987, il a agressé en Haute-Savoie, violé et assassiné une jeune femme dans des conditions aussi barbares.
Plus troublant encore, Roberto Succo tue et viole quasiment de la même manière que le meurtrier d'Evelyne Boucher.
Il y a une similitude de modus operandi, à savoir des femmes qui sont abusées sexuellement et qui sont achevées, qui sont tuées d'une balle de 22 Lanrif dans la tête.
Les coïncidences sont troublantes. La jeune Evelyne serait-elle donc une victime ignorée du célèbre tueur en série ? Le juge Lernoux souhaite procéder à une comparaison de l'ADN de Roberto Succo avec celui retrouvé sur la jeune femme. Seulement, le magistrat se heurte à un problème de taille. Succo s'est suicidé en prison en 1988 et il est enterré en Italie.
Il ne faut vraiment pas écarter cette hypothèse. Et on décide de demander aux Italiens l'autorisation d'exhumer le corps de Roberto Succo.
Une fois l'autorisation obtenue, les enquêteurs se transportent en Italie, près de Venise. Un os est prélevé sur le corps de Roberto Succo et permet de comparer son ADN à celui du meurtrier d'Evelyne. Sauf que voilà, le test s'avère négatif.
Là, le coup est quand même très fort parce que réellement, avec les derniers enquêteurs qui ont encore la mémoire du dossier, nous sommes découragés. Nous ne savons plus où chercher.
Il y avait un grand espoir, mais il a mieux valu que ce ne soit pas Succo, parce qu'il était mort. Nous, on voulait quelqu'un de vivant.
Roberto Succo n'a pas tué la jeune femme. Chez les policiers, le désespoir gagne du terrain.
C'est quasiment irréel de se dire que bon, si l'auteur est dans le coin, comment ça se fait qu'en 19 ans, on n'y est pas tombé dessus, qu'il n'a pas récidivé ? Mais pourquoi on est passé à travers ?
80 tests ADN se sont révélés tous négatifs. Plusieurs pistes qui semblaient prometteuses n'ont abouti à rien. En 2002, le juge Lernoux est muté dans une autre juridiction. Mais son dernier acte sera de faire enregistrer l'ADN du tueur d'Evelyne Boucher au tout nouveau fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, une immense base de données dans laquelle sont répertoriés les ADN de délinquants et de criminels.
À partir du moment où la trace ADN a été versée au FNAEG, elle va pouvoir être vérifiée avec toutes les traces ADN qui se trouvent dans les ordinateurs du FNAEG. C'est-à-dire que ça devient colossal.
L'inscription était faite, on savait maintenant que peut-être un jour, une comparaison allait aboutir.
Maintenant, c'est un peu une question de... Voilà, c'est la roulette, hein, c'est parti.
Ce que ne savent pas les enquêteurs, c'est que le tueur d'Evelyn va effectivement finir par être découvert grâce à ce fichier informatique. 16 mai 2003, au pont du Gard. Nous sommes à 25 km de Villeneuve-les-Avignon. C'est là qu'un événement en apparence sans rapport avec le meurtre d'Evelyn va faire rebondir l'enquête. Ce jour-là, à la sortie du site touristique, un automobiliste est en train de quitter le parking sans payer en se faufilant derrière une autre voiture. Les vigiles ont aperçu la manœuvre.
Il y a un vigile qui à ce moment-là bloque le véhicule et là s'ensuit une altercation, d'abord verbale.
Le conducteur prétend qu'il a simplement perdu son ticket de parking. Mais il se montre agressif et la situation dégénère rapidement.
Il y a des échanges de mots, puis de coups.
S'ensuit une altercation physique, violente.
Il s'en est pris ouvertement au vigile et il semble, d'après les déclarations des vigiles, qu'il était méché. Et donc l'altercation a été assez violente.
À la suite de cette bagarre, les vigiles portent plainte contre le conducteur, un certain Robert Greiner. Un an plus tard, en 2004, l'homme comparaît devant un tribunal.
Au niveau du tribunal correctionnel, il va être condamné à 3 mois avec sursis.
Et là, application de la loi. On lui dit, monsieur, vous avez été impliqué dans des faits de violence. Par conséquent, vous devez vous soumettre à un relevé de l'empreinte génétique.
Autrement dit, Robert Greiner doit accepter un prélèvement ADN qui rejoindra le fichier national. Le problème, c'est que Robert Greiner semble quelque peu récalcitrant.
Alors, il ne va pas vouloir y aller tout de suite. Il ne répond pas aux convocations des gendarmes.
Après 4 refus, ce n'est finalement qu'au mois de mai 2005 que l'homme va accepter de donner son ADN lors d'un passage de la police. Le prélèvement rejoint alors le fichier des empreintes génétiques, le fameux FNAEG. Et la vie de Robert Greiner reprend son cours normal, du moins pour quelque temps. Juin 2006. Cela fait maintenant 19 ans qu'Evelyne Boucher a été tuée, et voici que l'ordinateur du FNAEG réagit enfin. Il a découvert dans son immense base de données un ADN qui correspond au sperme prélevé sur le corps de la jeune femme.
19 ans après, ça coïncide. Il y a une signature qui dit oui, une signature ADN qui correspond à l'identité d'un sapeur-pompier qui est en poste à la caserne d'Avignon. Sergent.
Un pompier qui n'est autre que Robert Greiner, l'homme qui s'était battu sur le parking. Les résultats sont formels et fiables à plus de 99,9%. On a peut-être retrouvé l'homme qui a violé et tué Evelyn, et sa mère a bien du mal à réaliser.
Je reste complètement anéanti. En fait, on devrait avoir une réaction de dire ça y est, ça fait 19 ans, mais on n'y croit pas, on réalise pas, on est là complètement, on se regarde, Jean-Pierre et moi, complètement abasourdis.
Autre personne abasourdie par la nouvelle, le juge Lernoux, qui a tant œuvré pour que ce dossier soit un jour résolu.
19 ans après les faits, c'est le choc, hein. C'est le choc, je veux dire que dans ma carrière, c'est vrai que c'est l'événement le plus important qui soit survenu parce que ce dossier est hors norme hein, par sa durée.
19 ans après, l'enquête est relancée. Il est temps de s'intéresser de plus près à ce pompier, Robert Greiner. Les enquêteurs se mettent au travail pour en savoir plus sur ce pompier qui est devenu leur suspect numéro 1. Avant de l'interpeller, ils souhaitent récolter un maximum d'informations sur son compte.
Il s'agit donc d'un pompier professionnel qui travaille au centre de secours d'Avignon et qui réside sur la commune de Sorgues, dans le Vaucluse.
Robert Grenier est rentré dans les années 80-84, il est rentré dans mon équipe. C'est un pompier qui a une intervention compétent et se donne dans toutes les missions qui lui sont confiées.
Mais ce pompier respecté, père de deux enfants, possède aussi une part d'ombre que plusieurs témoins ne tardent pas à confirmer.
C'est un homme plutôt porté sur l'alcool, enfin, et assez violent, qui supporte pas trop le... il aime bien que les gens aillent dans son sens et il est assez violent, il est assez irascible. Ouais.
Beaucoup de monde ont peur, même moi, ne cache pas que... Il m'intimidait, quoi, parce qu'on ne sait jamais où il pouvait en venir, quoi.
Et il y a autre chose. Dans sa caserne, Robert Grenier a également la réputation d'être un séducteur, un pénitent.
On a eu des éléments, notamment de femmes qui allaient à la caserne pour aller voir d'autres amis et qui ont été pris à partie par Robert Grenier et qui avaient insisté lourdement pour avoir leur faveur sexuelle.
Il faisait venir des filles en caserne, puis qui aimait, lorsqu'il avait fini ses affaires, il aimait embêter les autres dans les chambres, voilà, faire du bruit, quoi.
Le pompier ne manque pas de défauts. Et les soupçons vont encore s'alourdir lorsque les policiers vont découvrir qu'il fréquentait les mêmes quartiers d'Avignon que la jeune Evelyne. Tout d'abord, Robert Grenier est affecté à une caserne de pompiers rue de la Carreterie. Cette caserne se trouve à seulement quelques centaines de mètres du lycée Aubanel, le lycée d'Evelyne Boucher. Robert Grenier aurait donc pu rencontrer la jeune fille à la sortie du lycée. Elle passait tous les jours devant la caserne pour prendre son bus. Autre coïncidence, l'un des meilleurs amis de Robert Grenier est domicilié dans le même lotissement que les parents d'Evelyne. Le pompier avait donc souvent l'occasion de se rendre dans ce quartier. Cela fait donc deux endroits où le suspect et la victime ont pu se croiser régulièrement. Mais avant de procéder à l'arrestation de Grenier, les policiers ont une idée. Ils décident de convoquer Géraldine. Souvenez-vous, c'est cette jeune femme qui avait vu Evelyne le soir du meurtre, enlevée par un mystérieux inconnu au volant d'une Renault 5. 19 ans plus tard, reconnaîtra-t-elle Robert Grenier?
Je vois quatre photographies qui en tout représentent trois hommes différents. Trois hommes que je n'ai jamais vus. Et en bas de la page, sur la gauche, il y a une photographie d'un homme. Une espèce de déclic. Parce que quand je le vois, je lui dis « Mais c'est pour lui que vous m'avez fait venir. » Quand je vois la photo, j'ai... une réaction, ça me parle, tout simplement.
Robert Grenier est identifié. Il est désormais temps de passer à l'action. Le 19 juin 2006, il est 7h du matin. Les enquêteurs de la PJ d'Avignon se rendent au domicile de Robert Grenier pour l'interpeller. Et l'homme n'oppose aucune résistance. Il semble même ne pas réaliser ce qui lui arrive.
Il fait comme quelqu'un qui t'envoie du placard. Il est complètement... Il fait la personne complètement surprise.
Il est médusé. Il dit qu'il ne comprend pas.
On lui montre la commission rogatoire, ou voilà, viol et meurtre quand même sur les faits. Et donc je ne comprends pas, c'est quoi, enfin...
Pendant la perquisition de la maison du pompier, rien de particulier n'est découvert, ni armes, ni coupures de journaux. Mais il est vrai que 19 ans après les faits, l'homme a très bien pu faire disparaître tout élément compromettant. Les enquêteurs fondent donc tous leurs espoirs sur l'interrogatoire. Le problème, c'est que Robert Grenier reste quasiment muet. Surtout quand on lui demande « Connaissez-vous Evelyne Boucher ?»
On peut dire que ça se passe très mal parce qu'il se bute dès le départ et donc il nie l'évidence et puis il veut pas du tout s'expliquer.
Il nie en bloc. Il lâche rien. Il dit rien. Il dit non, c'est pas moi, je connais pas, je comprends pas de quoi vous m'accusez.
Non, je la connais pas, je l'ai jamais vue, on lui a montré la photo, il la connaissait pas. Il connaissait pas le lycée Aubanel, il avait jamais entendu parler de cette histoire.
Les heures d'interrogatoire passent, Robert Greiner résiste. Les enquêteurs abattent alors leur carte maîtresse. Ils lui révèlent que son ADN a été retrouvé sur le corps de la victime. Mais là encore, le pompier a une réponse toute trouvée.
Vous me dites qu'il y a mon ADN, qu'il y a du sperme. Moi, les jeunes filles, j'ai beaucoup de rapports avec des jeunes femmes. Oui, je suis infidèle, d'accord, mais je n'ai pas meurtrier. Voilà.
À l'époque des faits, M. Greiner avait énormément d'aventures. Énormément d'aventures. Et sincèrement, il le dit, je suis désolé, mais je ne me rappelle pas de toutes mes aventures. Il ne se rappelle pas. Donc il ne se rappelle pas de cette relation, lorsqu'on l'interroge en 2006, cette relation 87, il ne s'en souvient pas.
Après 48 heures de garde à vue, Robert Greiner est conduit au palais de justice de Nîmes et mis en examen pour le meurtre et le viol d'Evelyne Boucher. Mais si le pompier a décidé d'en dire le moins possible, d'autres ne vont pas tarder à parler pour lui. Une semaine après l'arrestation du pompier, le commissariat reçoit une lettre anonyme. Une lettre dirigée contre Robert Greiner et certains de ses collègues. Une lettre qui profère des accusations particulièrement graves.
Ce courrier décrit des scènes odieuses qui auraient lieu à la caserne, qui mettent en cause des sapeurs-pompiers, avec des rapports sexuels forcés, avec des scènes de viol, avec des actes de cruauté, de barbarie sur des jeunes femmes.
Des parties fines d'une rare violence avec, comme maître de cérémonie, Robert Greiner en personne. Les policiers vont même retrouver une de ses victimes, une jeune femme surnommée Cricri, qui aurait subi de graves sévices.
Cricri est une jeune dame qui avait un retard intellectuel avéré. Et donc Robert Greiner en a profité pour en faire un peu son objet sexuel.
Il lui faisait subir, lui et puis certains de ses collègues sapeurs-pompiers, il faisait subir à cette femme des faits de viol particulièrement sordides.
Au début, il jouait un petit peu avec elle, et puis bon, quand il en avait assez, ben, soit il la renvoyait, ou soit il était arrivé déjà qu'il la prête à son copain de chambrée.
Le scandale de la caserne d'Avignon est retentissant. Aux yeux de l'opinion, Robert Greiner devient un monstre. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. L'homme est forcément coupable et le scénario de la soirée du drame n'est pas bien difficile à imaginer.
On se dit que peut-être avec Evelyne Boucher, soit bon, il la connaissait et puis ça a dérapé parce qu'il avait bu, ou alors parce qu'il avait peut-être flirté au départ et qu'ensuite il a voulu aller plus loin et qu'elle ne voulait pas. Ou alors, carrément, bah, qu'il est peut-être rentré en contact avec elle dans la rue, qu'il a peut-être éventuellement fait monter de force dans son véhicule et que, bon, bah, à l'issue, comme il était méché, il voulait avoir une relation sexuelle avec elle et comme elle s'est refusée à lui, bah, il a une relation de force et qui a dérapé, qui a dégénéré.
20 ans après les faits, de nombreuses zones d'ombre demeurent encore. Les policiers n'ont pas réussi à mettre la main sur l'arme du crime et ils n'ont jamais retrouvé la fameuse Renault 5 dans laquelle Evelyne aurait été enlevée. Ils n'ont même pas pu faire la preuve que Greiner et la jeune fille s'étaient déjà rencontrés.
On n'a pas la preuve qu'ils entretenaient une relation. L'on n'a pas la preuve chez lui de la présence d'indices même 20 ans après.
Bien sûr, le test ADN accuse Robert Greiner. Mais faute d'autres preuves, le procès n'est pas forcément joué d'avance. Ses avocats lui ont d'ailleurs annoncé qu'ils espèrent bien obtenir l'acquittement. Cour d'assises de Nîmes, le 7 avril 2008. Lorsque Robert Greiner pénètre dans le box des accusés, la salle retient son souffle.
La salle est comble et tout le monde est contre lui.
Il paraît très dur, cynique, froid, réservé, et il se présente comme une victime, en fait.
Pour la mère d'Evelyne, le face-à-face avec le meurtrier présumé de sa fille est particulièrement douloureux.
On l'a face à nous. Donc le premier jour, je le regarde, je le fixe dans les yeux sans arrêt. Et là, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment une ambiance, une atmosphère pesante, angoissante, qui vous, ça vous détruit, quoi.
Robert Grainer demeure froid et distant. Et d'emblée, il clame son innocence. Il n'a ni violé, ni tué Evelyne Boucher.
Robert Grainer va se présenter à son procès comme d'un bloc, comme il est, un bloc. C'est-à-dire qu'il vient et il dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Cette jeune fille, je la connais pas.
Les femmes, il dit qu'il en avait tant qu'il voulait. Il allait boire un café au bistrot du coin et hop, il en trouvait une et il montait dans la chambre et c'était très facile pour lui. Alors, pourquoi aurait-il violé Evelyne ?
Quant à la présence de son sperme sur le corps de la victime, Robert Grainer affirme que cela ne prouve rien du tout. Il explique même qu'il a sans doute été victime d'un complot.
Peut-être c'est quelqu'un qui a pris mon sperme dans un préservatif et qui l'a mis dans le vagin et dans l'anus de la jeune fille, de l'adolescente. Ce qui te paraissait un peu, quand même, impossible à réaliser.
Les charges qui pèsent sur lui, ne serait-ce que l'ADN, c'est incontournable. C'est le sperme, c'est pas celui du voisin, ni le mien, c'est le sien.
Dès lors, Robert Grainer ne peut plus contester l'incontestable. Il va alors totalement changer de position. Du bout des lèvres, il reconnaît maintenant qu'il a peut-être eu une relation sexuelle avec Evelyne Boucher. Mais aussitôt, il ajoute qu'il ne s'en souvient plus et que de toute façon, cela ne veut pas dire qu'il a tué la jeune fille.
Qui a une relation sexuelle ? Moi, je ne le conteste pas. Je ne le conteste pas. Je dis que cette relation a pu avoir lieu dans un contexte avant, le jour même, voire la veille. C'est tout à fait admissible. Mais je n'en fais pas pour autant le lien entre celui qui couche, c'est celui qui tue.
Seulement, le rapport médico-légal affirme que le meurtre a eu lieu immédiatement après le viol.
Version qui ne tient absolument pas. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond pas aux constatations médico-légales, à savoir que Evelyne, elle a été violée et qu'il y a des traces médico-légales qui sont plus que parlantes. Et que surtout, on retrouve son corps avec le sperme de Robert Grainer en quantité importante dans le vagin, sans le moindre écoulement, ce qui laisse à penser qu'en aucun cas, elle a pu parcourir, d'ailleurs on ne sait pas trop comment, le trajet entre la caserne des pompiers d'Avignon et l'endroit où on a retrouvé son corps, c'est-à-dire environ 5 ou 6 kilomètres.
Robert Grainer semble acculé. Le coup de grâce s'annonce lorsqu'en fin de procès, ses anciens collègues pompiers se succèdent à la barre pour dresser de lui un portrait effrayant.
Ils le décrivent comme quelqu'un d'orgueilleux, alcoolique, violent, bagarreur. Enfin, triste cire quand même.
Monsieur Grainer va être touché par les déclarations de ses anciens collègues. C'est dur pour lui de voir l'image qu'on renvoie de lui. Il a l'impression d'être abandonné.
Alors que la cour se retire pour délibérer, Robert Grainer crie une dernière fois son innocence. Mais a-t-il pu convaincre les jurés ?
Un homme a été condamné hier soir par la cour d'assises du Gard à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre d'une lycéenne. La particularité de cette condamnation est qu'elle intervient plus de 20 ans après les faits.
À l'annonce de sa condamnation à perpétuité, Robert Grainer crie à l'injustice.
Mais tu vois pas que c'est cette condamnation, c'est une injustice totale.
Il était persuadé qu'à la fin de la semaine de débat, il allait être libéré. Il avait préparé ses sacs à la maison d'arrêt.
Dans le camp adverse, la famille d'Evelyne est bouleversée. 20 ans après les faits, justice a été rendue.
Je crois que c'est son plus beau cadeau d'anniversaire qu'elle aura demain, puisqu'elle aurait eu 37 ans demain. Et c'est ce que je voulais lui offrir, et j'y suis arrivée.
Robert Greiner a fait appel de sa condamnation. Le deuxième procès confirmera la sentence. Aujourd'hui, l'homme purge sa peine à la maison d'arrêt de Lyon.